Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et aujourd'hui, en ce samedi 20 avril 2024, nous vous proposons la deuxième et dernière partie de notre aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à la salle de l'Hexagone, un événement culturel qui a plus d'un quart de siècle d'existence et qui est chaque année organisé par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Nous nous sommes rendus à la fête du livre le 7 avril dernier, le dimanche, et nous avons déjà proposé la semaine dernière quelques entretiens et reportages réalisés sur place. Et bien aujourd'hui, deuxième livraison de nos entretiens, nous partirons et découvrirons un pays de l'Afrique occidentale. Il s'agit du Libéria grâce à un entretien avec l'ancien journaliste et romancier Christophe Néjon. Et puis nous allons d'ici quelques minutes partir en Arménie. Nous allons tendre notre micro au photographe Laurent Janin qui chaque année, très régulièrement, se rend dans différents pays aux quatre coins du monde. Et courant octobre 2022, Laurent Janin s'est rendu à Erevan, en Arménie, un pays du sud Caucase qui a pour voisins la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran. Et nous vous proposons donc d'ouvrir ce wagon livre et de partir à la découverte de cette Arménie chrétienne et de découvrir également le travail et Laurent Janin.
Je m'appelle Laurent Janin, donc je suis présent à la fête du livre d'Autun, comme régulièrement, et je viens présenter mes ouvrages, qui sont des carnets de voyage ou de reportages, dans lesquels je mets en conversation les instantanés photographiques en noir et blanc, et le verbe, les mots, la langue française que je chéris par-dessus tout. Et donc, cette année, je présente en particulier un ouvrage qui s'intitule « L'empreinte arménienne », qui est un reportage que j'ai fait à l'automne 2022 en Arménie pour connaître un peu ce pays, parce qu'on a une communauté arménienne importante en France, 6 à 700 000 personnes. On a des célébrités en France, hein, je pense à Charles Aznavour bien sûr, mais aussi peut-être connaissez-vous Achod Malakian, plus connu sous le nom de Henri Verneuil, Patrick Fiori, Lara Fabian, voilà, des artistes, la famille Petrosian aussi très connue pour le caviar, voilà. Donc ce sont la France et l'Arménie ont des choses à se dire et entretiennent de très bonnes relations depuis des temps immémoriaux. C'est un pays chrétien aussi. C'est le pays le chrétien le plus ancien au monde. Je crois que en l'an 301, s'est déclaré l'Arménie comme chrétienne.
Alors, nous pouvons tous inviter nos auditrices et auditeurs à prendre un atlas et de regarder géographiquement où se situe l'Arménie. Pas très loin d'ailleurs du continent européen. On est, Laurent Janin, là, donc au sud Caucase. Et l'Arménie, il y a des voisins qui ne sont pas les plus calmes et les plus doux. La Géorgie, l'Azerbaïdjan, dont on reparlera, la Turquie et l'Iran. Alors, vous nous avez bien rappelé que l'Arménie, dans ses gènes, dans sa culture et dans son identité, donc est un pays chrétien, qui a été un temps dans le giron de l'Union soviétique, qui a retrouvé son indépendance et qui aujourd'hui est un pays tout de même menacé et un peu oublié lâchement par l'Europe et d'autres pays. En fait, l'Arménie n'intéresse pas grand monde, c'est un peu terrible à dire.
Effectivement, on va dire l'Arménie a un contentieux lourd avec ses voisins, mahométans. Elle a été victime depuis les débuts. Il faut savoir que l'Arménie, le territoire de l'Arménie s'est rétréci et se réduit à une portion congrue. À ses débuts, elle faisait le joint entre le trait d'union entre la mer Noire et la mer Caspienne. Et au fil des conflits, des traités aussi, hein, notamment du temps de Staline, eh bien ces frontières ont été frappées d'alignement, j'allais dire, petit à petit, et le territoire s'est rétréci. Et donc, ils ont subi, j'allais dire, l'agression et la menace de l'Empire ottoman à son époque. Après cette... durant l'époque soviétique, ces conflits ont été gelés. Et depuis la chute de l'Empire soviétique, de l'Union soviétique, les anciennes querelles ont repris de plus belle. Et l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui sont très alliés, veulent effacer, j'allais dire, ce pays chrétien. J'en veux pour preuve déjà que la région autonome du Haut-Karabakh, qui était chrétienne à 90%, a été rayée de la carte au 1er janvier de cette année, 2024.
Sans que aucune force ni l'ONU, personne ne se manifeste.
Effectivement, alors c'est vrai que l'Europe est un peu gênée aux entournures en raison du conflit russo-ukrainien, avec l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Nous avons besoin de gaz. L'Azerbaïdjan est un gros producteur de gaz. Et finalement, vu que le gaz russe, cette source s'est tarie de notre propre volonté, des Européens, notamment des Allemands, parce que dépendaient exclusivement du gaz russe, puisqu'ils ont renoncé à d'autres formes d'énergie comme le nucléaire. Donc on est un peu tenu, on pleure doucement, j'allais dire on verse quelques larmes sur le malheur arménien, mais le commerce fait qu'on a besoin de l'Azerbaïdjan, donc j'allais dire la critique est très très timide, on va dire. Hein.
Laurent Jeannin, à l'instant, enregistré le 7 avril dernier lors de la fête du livre d'Autun pour l'empreinte arménienne, que vous pouvez vous procurer en commande sur le site internet de Laurent Jeannin. Le site s'appelle diaventure.fr, mais vous pouvez également vous procurer les carnets de voyage et les carnets de reportage de Laurent Jeannin auprès de votre libraire. On retrouve Laurent Jeannin dans quelques minutes, le temps pour nous de marquer un premier intermède musical. Merci de passer cette fin de matinée avec nous. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Hard gold and a chance of rights take a different road than love it is a feels
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de notre aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier, je vous propose de retrouver le photographe Laurent Janin qui s'est rendu en octobre 2022 à Erevan en Arménie donc et qui en est revenu avec un très beau carnet de reportages illustré de ses photographies en noir et blanc intitulé « L'empreinte arménienne ». Tout de suite, Laurent Janin.
Quand on est en Arménie, on n'a pas l'impression d'être aussi loin de la France. C'est vrai que les Arméniens ont un mode de vie à l'occidental. J'allais dire, on pourrait se dire, tiens, quand on est à Erevan, la capitale, peut-être la plus ancienne capitale du monde à ce jour, qui est encore habitée, voilà, qui a plus de 2800 ans, on a l'impression d'être à Paris. Les gens vivent à l'occidental, il y a des cafés, il y a des... Voilà, on n'est pas du tout dans l'atmosphère un peu austère de ces pays, ou plus cadenassés, j'allais dire, de ces pays voisins, hein, où il y a une société de consommation qui n'y a pas forcément dans les pays comme l'Azerbaïdjan, qui, une dictature, disons-le. Hein. Voilà, donc... moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'actualité qui percute douloureusement, c'est un peu la double peine pour les Arméniens, le conflit russo-ukrainien fait qu'il y a une forte émigration, donc une immigration pour l'Arménie, de jeunes russes qui veulent échapper à la conscription, qui veulent pas aller se battre sur le front ukrainien. Alors ce sont souvent des professions libérales, des médecins, des ingénieurs, et totalement, qui ont moins de 40 ans, quoi, qui sont... Bah, je les ai rencontrés, j'ai eu beaucoup de mal à trouver à me loger à Erevan, et je me suis retrouvé dans un dortoir, j'étais le seul Français, et autrement, il y avait 15 à 20 Russes qui étaient là, complètement hagards et inquiets du lendemain, parce que finalement, ils sont venus là parce qu'ils ont un certain pouvoir d'achat, j'allais dire, ils avaient une bonne situation en Russie, et ils vivent sur leurs économies en attendant que la guerre cesse, quoi, pour retourner dans leur pays. Et ils sont très, très inquiets, en fait, voilà. Et donc, la population d'Erevan a quasiment doublé en quelques mois. Hein, on est passé de 1 million à 2 millions, c'est assez impressionnant.
Alors Erevan, Laurent Genin, vous me disiez que c'était une très très vieille capitale, hein, plus de 2800 ans d'existence, pas de gastronomie typique, un pays qui produit du vin.
Oui, un pays qui produit du vin, alors je pense notamment à la région d'Arénie, qui est on va dire proche de la frontière turque entre Erevan et le sud de l'Arménie, qui produit du vin, qui a cette culture du vin, parce que tous les ans, normalement, il y a une fête du vin, la fête du vin d'Arénie, un peu comme la Saint-Vincent tournante que nous avons en Bourgogne. Et effectivement, il y a des parallèles. Et il ne m'étonne pas, finalement, que les Arméniens se sentent bien en France, comme quand on est Français, on peut bien se sentir en Arménie. Mais toutes ces festivités ont été annulées ces dernières années, en raison de la guerre, par respect pour les soldats qui sont tombés au combat, parce qu'il faut savoir qu'il y a des morts tous les jours en Arménie. Ils défendent pied à pied leurs frontières, et l'ambition, j'allais dire, du monde turcophone, ils veulent réaliser le panturquisme, c'est-à-dire réhabiliter l'Empire ottoman, j'allais dire, d'Istanbul à Oulan-Bator, et finalement cette Arménie est un peu le caillou dans la chaussure qui gêne ce projet. Et donc toutes les festivités ont été annulées. Il y a une fête tous les ans à Erevan pour célébrer un peu cette ancienneté, adresser une dévotion à cette préscience du temps long, finalement. Et pour éviter les concentrations de population qui seraient des cibles trop facilement verrouillables par des drones, finalement, hein, parce que des drones turcs, enfin, qui sont envoyés par l'Azerbaïdjan, mais qui leur fournit des drones d'haute technologie pour bombarder. Maintenant, on ne bombarde plus forcément avec des avions, mais avec des drones.
Alors, la situation semble tout de même assez critique pour ce pays. Cela fait bien de la peine. Est-ce que vous entrevoyez tout de même un peu d'espoir, une amélioration de la situation de cette Arménie chrétienne ?
Alors, je dirais que la situation est catastrophique et terriblement douloureuse, mais j'ai l'impression que ils ont un atout. Les Arméniens ont un atout, c'est leur chrétienté, la foi. C'est un pays chrétien à plus de 90%, hein, des chrétiens apostoliques. Mais j'aime citer par exemple cette phrase de Bernanos, Georges Bernanos, qui dit que l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et leur espérance, eux, se trouve dans la foi, dans la religion. Il n'y a pas toutes ces fractures qu'on peut avoir en France, par exemple, on voit des communautarismes, une fragmentation de la société française. Après, ce n'est pas de l'idéologie que je fais. Je constate, il n'y a qu'à regarder un peu l'actualité, ça n'existe pas là-bas. Et un pays qui est uni, dont la population est unie, a plus de chances, j'allais dire, d'entrevoir un avenir, d'entretenir l'espérance. Voilà, tout simplement.
Alors, vous citez un propos de Hitler lors d'une allocution du 22 août 1939 à Obersalzberg, Hitler qui disait « Qui aujourd'hui se souvient de l'extermination des Arméniens ? Est-ce qu'en 2024, on aurait oublié le génocide arménien ? Dans certains pays, en tout cas ?»
Ben, j'allais dire, le génocide arménien n'a été reconnu par la France. Par les Turcs, par le monde musulman, il n'est absolument pas reconnu. Hein. Mais par la France, il a été reconnu très récemment. C'est Jacques Chirac, alors j'ai pu au début des années 2000 seulement, hein, le génocide de 1915. Je pense que ce génocide a été englouti dans les malheurs et les larmes de la Première Guerre mondiale. Autant la Shoah a été la signature du second conflit mondial, autant la Première Guerre mondiale, les Européens ont d'abord pensé à panser leur plaie, P-A-N-S-E-R, et finalement ce drame arménien a été occulté.
Je rappelle le titre du carnet de voyage de Laurent Jeannin que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro et enregistré lors de la fête du livre d'Autun, c'était le 7 avril dernier. Le carnet de reportage de Laurent Jeannin a pour titre « L'empreinte arménienne ». Vous pouvez le commander sur le site internet de Laurent Jeannin, diaventure.fr, pour ne pas effectivement totalement oublier ce pays abonné au malheur, pays du Sud-Caucase qui a pour voisin la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran. Nous marquons un nouvel intermède musical dans votre émission littéraire et ensuite nous nous envolons en Afrique, nous partons au Libéria puisque nous allons en savoir un peu plus grâce à un entretien enregistré lors de la fête du livre d'Autun avec l'ancien journaliste et romancier Christophe Néjean.
Où j'écoute la pluie en vacances, d'Allemagne, où j'entends le rock en silence, d'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'enfance, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France, d'Allemagne, l'histoire passée est une injure, d'Allemagne. L'avenir est une aventure. D'Allemagne, je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, Wiedersehen, Lili Marlène. Reparlez. Vous rassure. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincères. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus. extraordinaire. Oh, vie d'Argel, Lily Marley, reparlez-moi tes roses gratiquées, qui m'accompagnent dans notre Allemagne, à l'heure où Colombe et Vautour s'éloigne. De quel côté du mur la frontière vous rassure? Ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dein Mann, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Continuons, si vous le voulez bien, notre aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier. Je vous propose cette fois-ci de découvrir un pays d'Afrique qui se situe dans le golfe de Guinée. Il s'agit du Libéria. Nous allons en découvrir l'histoire, les drames, mais également les charmes et les beautés à travers un entretien que nous avons enregistré le 7 avril dernier avec un ancien journaliste qui s'est très souvent rendu au Libéria et qui connaît bien les problèmes de géopolitique de l'Afrique. Il s'agit de Christophe Néjon, qui est l'auteur d'une trilogie romanesque disponible aux éditions des Presses de la Cité et qui a pour titre Libéria, le tome 2 Mambo Point Blues et le tout dernier sorti en cette année 2024, Kalak Mambo. Je vous propose non seulement de découvrir le Libéria et de faire connaissance avec Christophe Néjon.
Je m'appelle Christophe Néjon, je suis un ancien journaliste. J'ai travaillé pendant presque 30 ans journaliste et documentariste. Je faisais des films, j'ai travaillé pour la presse écrite et la radio pendant 30 ans donc en Afrique. Et maintenant, je suis en retraite. Et j'ai changé de métier, je suis écrivain et j'ai enfin la possibilité d'écrire plus que 1000 signes pour raconter les histoires que j'ai à raconter. Et il se trouve que à la fin de mes années de journalisme, j'ai été amené à faire des films documentaires sur un certain nombre de pays d'Afrique qui étaient en guerre, ou en tout cas en crise grave. L'Afrique du Sud, la guerre d'Angola, le Rwanda dont on parle beaucoup en ce moment, et puis au Libéria. Alors, le Libéria est un drôle de pays que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je ne suis pas sûr d'avoir encore tout compris, mais j'ai beaucoup travaillé pour essayer de comprendre.
Alors, vous avez tellement travaillé d'ailleurs sur le Libéria. Une expérience autre que celle du Libéria, vous l'avez dit, à la rencontre d'autres pays d'Afrique. Au départ, vous deviez faire un travail universitaire, un travail de thèse, et finalement, vous choisissez la voie romanesque et il y a trois romans signés de Christophe Néjon dont le Libéria et son peuple sont au cœur de la fiction.
Voilà, donc au lieu de faire une thèse qui sera lue par cinq personnes et qui sera archivée, comme ancien journaliste, j'ai préféré m'adresser à un public plus large et donc utiliser la voie du roman historique, le plus près possible de la vérité historique, mais romanesque, pour pouvoir intéresser les lecteurs à cette histoire très particulière. Donc j'ai sorti, comme vous le dites, trois livres. Un premier qui s'appelle « Liberia », qui raconte la première phase entre 1807 et 1865 de l'histoire très singulière de ce pays. Un deuxième qui se situe entre les deux guerres mondiales. Et un troisième qui correspond à la période que moi j'ai vécue pendant la guerre du Libéria.
Dans les années 90.
Dans les années 90.
Alors, Liberia est paru en 2017, mais republié par les presses de la cité il y a deux ans, en 2022. Ensuite, il y a eu Mambo Point Blues. Donc là, c'est un jeune Africain dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Et puis, en cette année 2024, Kalak Mambo, toujours aux presses de la cité. Alors, ce pays, le Libéria, que vous connaissez bien et que vous aimez mettre en scène avec son histoire et son peuple dans vos romans, c'est un pays qui se situe dans le golfe de Guinée, donc qui est sur la côte occidentale de cet immense continent africain.
Alors, le Libéria se trouve à côté de la Côte d'Ivoire. Les Français connaissent mieux la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est un pays entre la Guinée au nord, la Côte d'Ivoire d'un côté et la Sierra Leone de l'autre. Ce pays a une histoire très particulière. C'est la seule colonie fondée par des Noirs n'importe où dans le monde. Donc, c'est une histoire très singulière.
Absolument, Christophe. En fait, les Américains ont encouragé d'anciens esclaves noirs qui, donc, ont vécu aux États-Unis à repartir au Libéria. Mais alors là, c'est là que ça se passe mal, parce que ces anciens esclaves noirs venus des États-Unis sont très mal accueillis au Libéria par ceux qui sont sur place et qui sont noirs aussi, en fait. Hein.
Alors, les Américains se sont surtout débarrassés d'eux en leur disant « Si vous voulez être libre, on vous met dans les bateaux et vous allez partir ». Dans des charters, en quelque sorte, et vous allez là-bas, on vous a trouvé un endroit en Afrique, et vous allez pouvoir fonder une colonie. Donc, ils sont partis, et là-bas, ils ont retrouvé d'autres Noirs, mais des vrais Africains, ce que j'appelle des Afro-Africains, en comparaison des Américo-Africains.
Mais qui les regardent comme des colonisateurs.
Voilà, alors qui les regardent comme des colonisateurs, et eux les regardent comme des sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens, donc ils ont la mauvaise religion, ils sont polygames, et en plus, ils sont les descendants de ceux qui avaient vendu leurs parents comme esclaves, et qui continuent, alors qu'eux arrivent sur le continent africain, ils trouvent encore des comptoirs où on vend des esclaves qui partent vers l'Amérique du Sud alors que la traite est interdite. Donc ça leur donne tous les motifs pour dominer les indigènes, hein, je les appelais comme ça, les Afro-Africains, et petit à petit créer une colonie qui devient peu à peu une dictature.
Christophe Néjon, à l'instant, dans le reportage que vous venez d'entendre, un reportage réalisé lors de la fête du livre d'Autun, c'était le 7 avril dernier, à la salle de l'Hexagone, la fête du livre d'Autun, qui avait choisi cette année la thématique vagabondage, tel que le terme figure sur l'affiche du salon, affiche d'ailleurs réalisée par le talentueux Jean Perrin. Nous revenons dans quelques minutes après une petite pause musicale pour continuer à découvrir le Libéria avec notre guide Christophe Néjon.
Around Danone. Vie en rose in Luxembourg, pas comme the taste of an apple core, seems so much sweeter than before. How does it feel?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour en cette fin de matinée sur Radion, sur la fête du livre d'Autun qui s'est tenue il y a quelques semaines. C'était les 6 et 7 avril dernier à la salle de l'Hexagone, dans cette belle ville de Saône-et-Loire. Fête du livre d'Autun, plus d'un quart d'existence, est organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Juste avant la pause musicale que nous avons proposée, nous avions tendu notre micro au journaliste et romancier Christophe Neigeon, qui signe une trilogie romanesque historique autour d'un pays du continent africain, le Libéria, qui se situe dans le golfe de Guinée. Eh bien, je vous propose de retrouver Christophe Neigeon. Il va nous parler cette fois-ci du tome 2 de sa trilogie, tome 2 qui a pour titre Mamba Point Blues, disponible aux éditions des Presses de la Cité, où là, nous nous retrouvons avec le héros dans les turbulences de la Première Guerre mondiale, héros du roman à qui, bien évidemment, il arrive plein d'aventures. Christophe Neigeon, enregistré à la fête du livre d'Autun.
Le héros est un noir d'Afrique, du Sénégal, mais de nationalité française, puisque le Sénégal est une colonie française et qui appartient plutôt à une élite noire de la colonie française. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est percussionniste. Il apprend le djembé là-bas. Et quand il a 18 ans, la guerre est en France et il est envoyé comme soldat sur le front. Et on l'envoie comme
sous uniforme français, ouais, puisqu'il dépend des colonies françaises, nous sommes d'accord.
Absolument. Et il est envoyé comme interprète dans un régiment de noirs américains qui ont été engagés sous commandement français. Et il est leur interprète, parce que lui, il parle français et anglais. Et donc, il se trouve que, comme il est percussionniste, il rencontre des musiciens de jazz, parce que la plupart de ses soldats américains venaient de Harlem. Et ils rencontrent la musique, et eux rencontrent leurs origines africaines à travers les percussions qu'il a. Et donc, ça va être la clé pour lui, pour aller aux États-Unis, non seulement découvrir la condition des Noirs aux États-Unis, parce que lui, il était noir en Afrique, donc il n'était pas soumis au racisme. Donc il découvre toute cette histoire américaine, la lutte des Noirs, comment le jazz est un moyen de lutte. Et en même temps, il va retrouver une partie de sa famille qui avait fait autrefois le voyage vers le Libéria et qui était revenue s'installer aux États-Unis. Et donc ça va être le lien avec le Libéria, et il va, après toutes sortes d'aventures, il va retourner là-bas et s'installer là-bas.
Alors, il part effectivement un temps aux États-Unis et puis il rencontre, alors après il revient en France et là il croise Joséphine Baker, il va jouer avec elle. Et à la Closerie des Lilas, il rencontre un écrivain américain bien connu qui là encore, l'écrivain américain qui se passionne pour le Libéria, une terre sauvage, peut-être même peuplée de cannibales, pense-t-on à l'époque.
Oui, alors ce Graham Greene, qui est un écrivain remarquable mais un peu suicidaire, entendant les histoires que lui raconte Jules sur l'Afrique et regardant une carte du Libéria où tout le centre du pays est en blanc avec juste marqué cannibale dessus, décide que ça, pour lui c'est le pays idéal pour aller tenter une aventure où il va risquer sa peau. Et donc il entraîne Jules à travers ce pays, et ça me donne l'occasion de raconter ce Libéria de l'intérieur.
Il y avait vraiment du cannibalisme,
il y avait des rituels. Il y avait des rituels, comme il y a eu ensuite pendant la guerre, où on mangeait, des initiés, des grands initiés, mangeaient quelquefois des parties de personnes qui avaient été sacrifiées. Mais ce n'était pas pour se nourrir, c'était uniquement, très rarement, dans des rituels religieux.
Alors la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, éclate, et le Libéria, sur cette côte africaine, donc avec cette ouverture sur l'océan Atlantique, est une position stratégique, en tout cas dans un premier temps du côté des démocraties. On a peur qu'il bascule du côté de l'Allemagne nazie.
Oui, alors le Libéria est très bien placé. Il est entre les deux blocs des colonies françaises qui avaient pris chacun l'Afrique occidentale française et l'Afrique de l'Ouest, avaient pris des positions différentes vis-à-vis de Pétain. Hein. Et donc là, déjà, il y avait des enjeux importants. Et le Libéria, à la pointe de l'Afrique, est un endroit que les Américains convoitaient pour emmener des B-52. Des forteresses volantes, je veux dire, qui pouvaient ensuite aller bombarder en Europe. Et les forces de l'Axe, notamment Hitler, convoitaient aussi ce pays pour pouvoir y établir une base, pour les mêmes raisons. Et donc là, le Libéria s'est trouvé dans un enjeu très compliqué, très important. Et finalement, le Libéria a basculé du côté des Alliés. Et c'est là que le roman devient un peu un roman d'espionnage, parce que mon héros, évidemment, ne peut pas rester neutre et va être engagé dans cette histoire très, très rocambolesque, avec notamment Joséphine Baker, qui est une espionne, comme chacun sait.
À suivre et à découvrir dans Mamba Point Blues, soit en poche ou en grand format aux presses de la Cité. Intéressons-nous maintenant, Christophe Néjon, à votre publication romanesque de cette année 2024, Kalak Mambo. Alors là, c'est le Libéria des années 90, encore une histoire tragique et dramatique, malheureusement, mais une histoire que vous avez vécue de l'intérieur, puisque vous vous êtes souvent rendu. Alors vous n'avez pas vécu au Libéria, mais vous y avez séjourné longuement et très souvent.
Oui, alors pendant la guerre, évidemment, il était impossible à n'importe quel journaliste de survivre même en ville, parce que il y a eu 10% de la population qui a été massacrée quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais moi, j'ai eu l'occasion, dès qu'il y a eu des trêves où l'aéroport était ouvert, j'ai eu l'occasion de pouvoir entrer au Libéria. La première fois, première trêve, en 95-96, où je rencontre un certain nombre de personnes que je voulais interviewer, notamment un enfant soldat, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps, et qui avait rendu les armes au moment de la trêve, et qui, venant de la brousse, n'avait jamais connu la ville et découvre la ville et rencontre donc cette équipe de tournage qu'il va utiliser, dont il va avoir l'occasion d'utiliser pour essayer de retrouver ceux qui avaient assassiné toute sa famille.
Alors cette trêve, c'est en 1996. Et aujourd'hui, est-ce que le Libéria souffle et vit paisiblement et sereinement ?
Alors le Libéria souffle, ça c'est certain, depuis il y a eu trois présidents, dont le fameux George Weah, célèbre joueur de football, qui a perdu les élections là il y a un mois, il y a un nouveau président, donc le pays est calme. Mais la question de la réconciliation se pose toujours. Il y a eu récemment à Paris un procès pour crime contre l'humanité d'un ancien chef militaire du Libéria qui a été jugé en France. Mais au Libéria, aucun processus de justice et liberté comme il y a eu, justice et réconciliation comme il y a eu au Rwanda ou en Afrique du Sud n'est en route. Parce que les conditions de la paix, c'était que tout le monde soit amnistié. Alors aujourd'hui, rentrer dans un processus où on jugerait sur place des criminels de guerre risquerait de redéclencher la guerre parce que eux disent mais non, mais moi j'ai été amnistié, pourquoi est-ce qu'on reviendrait là-dessus? Et si on revient là-dessus, je vais redéclencher des troubles. Donc la paix est certaine, tout le monde la veut, mais elle est fragile.
Enregistré à la salle de l'Hexagone le 7 avril dernier lors de la fête du livre d'Autun, c'était le journaliste et romancier Christophe Naigeon qui évoquait sa trilogie romanesque autour de ce pays du golfe de Guinée qui se situe sur cet immense continent africain. Nous voulons parler bien sûr du Libéria. Je vous rappelle les titres des trois romans de Christophe Naigeon. Libéria. Le deuxième tome, Mamba Point Blues, disponible aux éditions des Presses de la Cité, également en format de poche. Et puis le tout dernier, paru en cette année 2024, toujours aux éditions des Presses de la Cité, Kalak Mambo, sous la plume de Christophe Naigeon. On marque un nouvel intermède musical dans votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion et juste après, nous quittons Autun pour revenir dans la Nièvre avec Christophe Guay qui est bouquiniste sur internet et qui surtout est le créateur d'une maison d'édition qui s'appelle Poisson d'Or et qui a un vaste programme de publications en rééditant des romans tous en lien avec la Bourgogne, notamment sur l'axe géographique Clamecy-Vézelay. Des romans qui ont tous un lien avec la Bourgogne, qui ne sont plus spécialement disponibles dans les éditions anciennes et que nous allons pouvoir nous procurer, découvrir ou redécouvrir suite à leur réimpression dans cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Poisson d'Or, qui a été créée par Christophe Guay et quelques passionnés de lecture. C'est à découvrir juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je rappelle que nous avons consacré deux numéros de Wagon Livre à cet aperçu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier. Vous retrouvez l'émission de la semaine dernière sur le site yannickpetit.fr et puis bien évidemment vous retrouvez également notre émission de ce jour en podcast avec toutes les références des ouvrages dont il a été question. Nous quittons Autun et cette fois-ci, nous nous intéressons à une nouvelle maison d'édition qui a pour nom Poisson d'Or. Elle a été créée par Christophe Guay, qui est vendeur de livres anciens sur Internet et qui a pour ambition, avec cette jeune maison d'édition, de remettre à disposition du public des textes en lien avec la Bourgogne, mais plus précisément avec une aire géographique un peu circonscrite, un axe Clamecy-Vézelay. Le premier volume est sorti à l'automne de l'année dernière. Il s'agit d'un texte de Robert Desnos intitulé « Voyage en Bourgogne, est publié de manière posthume en 1947. C'est un livre autodiffusé que vous pouvez trouver donc en librairie dans toute la Bourgogne. Et puis surtout, vous allez découvrir que Poisson d'Or va continuer ses publications courant juin de cette année, avec notamment la réédition de Vézelay, guide sentimental de Jules Roy, et puis de Raoul Toscan, un auteur nivernais, un texte intitulé « À l'hôtel du Lion d'Or ». L'hôtel du Lion d'Or, c'est ce gros hôtel, aujourd'hui hôtel 4 étoiles, qui se trouve au pied de la colline éternelle dans l'Yonne. Je veux parler bien sûr de Vézelay. Faisons tout de suite connaissance avec le créateur de cette maison d'édition Poisson d'Or.
Je suis Christophe Gay, installé dans la Nièvre, à côté de Clamecy, après avoir vécu de nombreuses années dans l'Yonne. Et je suis désormais bouquiniste, donc vendeur de livres anciens et d'occasion.
À Lucy-sur-Yonne.
Alors, sur Internet, effectivement, sur eBay, et puis dans une boutique, librairie Brocante, à Lucy-sur-Yonne, entre Coulanges et Châtel-Sansois.
Alors, la raison de votre passage dans Wagon Livre, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'à côtoyer les textes anciens, épuisés, finalement, vous avez donné naissance à une maison d'édition, Poisson d'Or, avec une vocation clairement affichée de remettre au goût du jour, peut-être, de redonner la possibilité de relire des textes qu'on ne trouve plus et qui pourtant sont bien présents.
Tout à fait, c'est bien ça. L'idée, c'était de remettre dans le public, à disposition du public, des textes qu'on considère, quelques amis et moi, comme essentiels ou importants pour la littérature et la connaissance du patrimoine écrit autour de la Bourgogne. Alors, c'est même pas la Bourgogne dans son ensemble, c'est une aire géographique un peu limitée, un peu circonscrite, qui peut être l'axe Clamecy-Vézelay, par exemple. Les deux sites étant particulièrement riches en écrivains, en auteurs de passage ou qui ont résidé. Et donc, il y a un certain nombre de textes importants qui n'étaient plus disponibles dans le commerce aujourd'hui.
Alors, quelques mots de présentation sur les éditions Poisson d'Or. Et d'où vient ce nom très joli, poétique, Poisson d'Or?
En fait, ça a été une longue recherche et tous les titres, les noms d'édition qui nous plaisaient ou qui étaient possibles n'étaient pas disponibles. Soit c'était déjà pris par des maisons d'édition de livres ou de musique ou de décoration, de design par exemple. Et donc, il y avait une question de copyright et de disponibilité. Et donc, un peu par défaut, on a fini par trouver ce nom-là qui finalement fonctionne assez bien, qui est un conte traditionnel russe au départ.
Alors, l'année dernière, les éditions Poisson d'Or ont fait paraître le premier volume. Et alors là, vous nous avez offert un beau cadeau, un texte alors publié de manière posthume en 1947, texte d'un poète, mais là c'est un texte en prose, c'est un texte de Robert Desnos que je vous laisse le soin de nous présenter, Christophe Gay.
Alors Robert Desnos est connu pour deux aspects de son existence littéraire. D'une part, la décennie, l'âge d'or, la décennie des années 1920, où il était un des membres et émérite du groupe surréaliste. Il a beaucoup travaillé autour de la notion du rêve, des jeux de langage. C'est un grand arpenteur de la langue française et de ses richesses. Et à la fin des années 20, il se fâche, comme beaucoup, avec André oui. Breton, pour connaître une existence multiple, on va dire, à la fois journaliste, critique littéraire et critique d'art.
Carrière radiophonique avec la série
Tout à fait.
Fantomas.
Oui, il a été un précurseur du feuilleton radiophonique. Et donc une vie assez riche dans les années 30, très diversifiée. Et au début des années 30, en 1930, à l'été, l'envie lui prend de quitter Paris et sa torpeur estivale pour passer 15 jours en Bourgogne, où l'objectif est dans un premier temps de randonner abondamment, de parcourir le paysage ensoleillé de nos contrées, en compagnie de deux personnes qui ne sont pas des inconnues. D'une part Yuki, qui était la femme de Fujita, qui les accompagne également, donc le peintre Fujita. Yuki étant au centre d'un chassé-croisé amoureux entre Desnos et Fujita, mais à l'époque Fujita et Yuki sont ensemble, Yuki étant un surnom japonais donné à cette femme qui s'appelait Lucy, et puis le neveu du peintre qui s'appelle Tomonobu qui accompagne, et ce quatuor part sur les routes de Bourgogne où ils vont passer beaucoup de temps finalement à visiter les sites et à apprécier la bonne cuisine et les bons flacons
Et boire de surtout, vin. Hein, voilà. Il est beaucoup question de boissons, une sorte de dipsomanie permanente.
Oui, mais avec goût et qualité, puisque les vins de la Côte d'Or et de Lyon sont abondamment dégustés. Parce que effectivement, ce texte-là est déjà un écart par rapport à notre programme d'origine, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de Lyon ou de la Nièvre, mais le Quatuor termine son périple en Côte d'Or, par une importante partie en Côte d'Or. Donc les villes de Lyon traversées sont Tonnerre, Chablis, Noyères, Avallon et Vézelay. Oui.
Alors effectivement, c'est des situations alors tantôt grotesques. Il y a aussi forcément une part de surréalisme, d'outrance parfois, qui donne un côté comique.
Oui, oui, il y a une verve, une fluidité, une vivacité du récit qui est très agréable à lire, qui est très facile à lire, très vivante. Et il y a effectivement des restes d'un sens polémique surréaliste. Je pense par exemple à une forme d'anticléricalisme qui s'affirme très nettement dans la page consacrée à la basilique de Vézelay. Personne d'autre que Robert Desnos n'a écrit dans ce sens-là et avec cette ironie-là sur ce lieu entre tous sacré.
Alors c'est très amusant parce qu'il est question de boîte de nuit à Noyères. Est-ce que c'est une moquerie de Desnos ou est-ce qu'il y avait une agitation nocturne à Noyères sur ce Rhin? On ne sait plus trop finalement.
Au plus fort de l'été, il y a eu sans doute des fêtes.
En tout cas, ce voyage, Desnos accompagné du peintre Fujita et de sa femme, Yuki et le neveu, c'est au début des années 30.
Voilà, 1930.
Et le texte, donc, apparu après la mort de Desnos en 47.
Desnos meurt malheureusement de suite de déportation en 45, après l'armistice, en juin 45. Et le texte est publié à titre posthume avec d'autres textes courts. Le texte fait 50-60 pages dans un livre qui s'appelle Rue de la Gaîté, publié en 47 à 200 exemplaires. Et le texte sera repris en 99. Il connaîtra une plus grande affluence dans un recueil qui s'appelle Quarto, c'est la collection Quarto chez Gallimard. Donc pas les œuvres complètes de Desnos, mais quasiment toute son œuvre des années 20 à 44-45, qu'il a écrit jusqu'à la fin, et ayant été déporté pour fait de résistance. Et le texte est mal écrit et heureusement conservé à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris, et qui a très intelligemment mis le texte en ligne, donc tout le monde peut le consulter sur internet et se rendre compte de la graphie de Desnos. Et grâce à cette publication en ligne, j'ai pu vérifier mot à mot le texte imprimé en 47, repris en 99, et le manuscrit de l'auteur pour découvrir quelques scories, quelques imprécisions dans la transcription antérieure. Et donc le texte qu'on a publié est vraiment le plus à jour, le plus fidèle à l'auteur. Il y avait des noms propres, par exemple, qui étaient écorchés ou mal orthographiés dans les versions publiées antérieurement. Donc c'est aussi une fierté de publier ce texte-là, avec l'autorisation des ayants droit et de Gallimard, et d'avoir une version la plus fidèle possible à l'humour et à la verve de Desnos.
En tout cas, on y découvre, comme vous l'avez dit, un certain nombre de villes de Lyon. Alors à Avallon, alors c'est amusant aussi parce que Desnos et ses compagnons ne veulent descendre que dans des hôtels de la Poste ou alors des hôtels de l'Étoile. Hein.
Ça, c'est du Lion d'Or. Amusant. Ou du Lion d'Or.
Ou du Lion d'Or, voilà, effectivement. Et il y a question de la fête à Avallon, les manèges et également le marché d'Avallon. Et la visite s'arrête à Beaune avec les hospices.
Oui,
c'est la fin
Desnos est quelqu'un de très attentif à l'art, à la culture populaire, c'est-à-dire les fêtes, le cinéma de l'époque parlant, les grandes séries littéraires ou les feuilletons, la radio. Et donc il est très attentif à cette question-là, sans surplomb intellectuel, sans condescendance, sans mépris. Et il est vraiment, il essaye de se mêler autant que possible pour un Parisien de l'époque à la population bourguignonne ou iconaise. Et ça donne lieu à des rencontres savoureuses et et très vivante, encore une fois. Voilà, c'est pas un quatuor qui reste à l'écart dans sa tour d'ivoire. Il se mêle à la population et dès qu'il y a une possibilité de fête, ça les rend très heureux.
Alors, comment peut-on se procurer Voyage en Bourgogne de Robert Desnos aux éditions Poisson d'Or? Alors, comment procéder?
Le livre est auto-diffusé pour l'instant, c'est notre premier livre. Il est disponible dans toutes les librairies de la Bourgogne, quasiment. Donc, dans notre région, Avallon, Auxerre, Noyères, Vézelay, Clamecy, Nevers, Dijon, Beaune. Donc, toutes les villes traversées par Desnos, mais aussi d'autres points de vente à Semur en Auxois, par exemple à Tonnerre. Donc, on le trouve assez facilement chez les bons libraires de la région.
Alors, Semur en Auxois, où nos héros ne s'arrêtent pas.
Voilà, ils font l'impasse, malheureusement.
Alors, Christophe Gay, la suite des éditions Poisson d'Or, ce sont des publications à venir en cette année 2024. Alors, vous avez des projets d'édition dans quelques mois?
Oui,
prochaine
oui,
publication
d'abord,
à l'été.
On va déjà réimprimer le Desnos qui se vend plutôt bien sur un temps assez court. Et après, on a deux livres prévus qui concernent Vézelay et son patrimoine. Un texte de Jules Roy qui s'appelle Vézelay, guide sentimental, déjà édité par deux fois par la librairie L'Or des Étoiles antérieurement, et qu'on va illustrer de photographies différentes des précédentes versions. Et puis un texte charmant d'un auteur nivernais qui s'appelle Raoul Toscan et qui s'appelle À l'hôtel du Lion d'Or.
Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'hôtel du Lion d'Or de Vézelay, place du Champ de Foire.
Voilà, donc c'est le fameux hôtel qui est le point de chute du héros de ce texte qui prend la forme d'un long poème romantique. Et l'hôtel du Lion d'Or et son cuisinier et tient une place importante. Et c'est un beau texte publié en 1942 sur Vézelay, un texte de jeunesse de Raoul Toscan, qui est un auteur aujourd'hui un peu injustement oublié, qui est un critique, journaliste aussi, qui a beaucoup travaillé sur le patrimoine nivernais et berrichon. Et ce texte mérite vraiment une nouvelle vie et n'a pas trop vieilli. Voilà.
Donc Raoul Toscan, À l'hôtel du Lion d'Or, vraisemblablement en juin?
Oui, avant l'été, le Jules Roy, le Raoul Toscan, et puis un troisième livre qui est un gros projet intéressant, qui est une histoire de l'occupation et de la résistance à Clamecy et en partie dans Lyon, dans le sud de Lyon, à Coulanges-sur-Yonne ou la forêt du Frétois. Sont passés des événements importants de la résistance via les maquis. Et ce texte a été écrit en 1974 par Robert Bucheton. Bucheton qui était un secrétaire général de la mairie de Clamecy pendant la guerre. Et à la fin de sa vie, il écrit un récit chronologique des événements à Clamecy. Et ce texte a été diffusé en 1974 à une vingtaine d'exemplaires et donc est quasiment inédit. Et c'est un texte considéré par les historiens d'aujourd'hui comme objectif, sérieux, rigoureux et qui fera le point sur les événements de l'occupation et de la résistance à Clamecy avec notamment le maquis du Loup.
Combien le tirage moyen?
Le livre de Desnos a été publié à 1100 exemplaires au mois de novembre et nous allons le réimprimer à 1200 exemplaires ces jours-ci chez un très bon imprimeur qui se trouve à Clamecy, La Ballerie. Et les textes suivants seront tirés entre 500 et 1000 exemplaires, un peu plus pour le Jules Roy.
À notre micro, à l'instant, Christophe Gay, créateur de la maison d'édition Poisson d'Or. C'est la fin de notre wagon livre aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine, non sans vous annoncer le programme du wagon livre de samedi prochain. Nous vous proposerons un entretien avec Bernard Moreau-Gaudry, un entretien que nous avons enregistré en public à la bibliothèque de Semur en Auxois dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Bernard Moreau-Gaudry, historien d'art, sculpteur et romancier, qui signe un roman intitulé « La mystérieuse Jeanne Barret » qui fit le tour du monde de 1767 à 1775 déguisé en garçon. C'est à découvrir samedi 27 avril prochain, toujours à 11h sur Radion. Et puis le samedi 4 mai, nous vous proposerons un entretien avec Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française pour son dernier roman, D'or et de jungle, paru aux éditions Kalman-Lévy. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou noter les références des ouvrages que vous auriez manqués, c'est très simple, vous vous rendez sur internet sur le www.yannickpetit.fr. Un très grand merci à toutes et à tous, au revoir et à samedi prochain.